ici la musique.
C'est à Boulle qu'il a commencé ses premiers accords de guitare. Et c'est à Boulle, presque 5 décennies plus tard, que nous avons rencontré Jean-Michel Borja. Jean-Michel Borja, au milieu des années 80, décide de partir pour le Canada, histoire de découvrir la poésie de l'autre côté de l'Atlantique et puis surtout aussi de distiller ses chansons. Mais voilà, la vie est pleine de surprises, mais quand on sait bien les prendre, on continue son bonhomme de chemin. Comme c'est le cas avec Jean-Michel Borja, il est aujourd'hui l'invité de Par ici la musique, histoire de nous faire partager, en peu de temps, 5 décennies de passion et de musique.
On est ici dans la maison dans laquelle j'ai grandi, d'ailleurs en présence de ma mère, dans son salon ici. Et en fait, la chambre qui est juste ici à côté, derrière, que tu n'as pas vue parce qu'on t'a pas tout fait visiter, c'est celle dans laquelle j'ai grandi entre l'âge de 2 ans et demi et jusqu'à l'âge de 20 ans, âge auquel j'ai quitté la maison maternelle et paternelle.
C'est là que tu as eu ta première guitare. À quel moment est-ce que tu as un souvenir de cette première guitare ?
Bien sûr, oui. En fait, ma première guitare, elle a été amenée par des amis de la famille qui étaient allés en Espagne et auxquels moi ou mes parents avions dit, avant leur départ en vacances, « Pourriez-vous ramener un instrument pour Jean-Michel ? Il se plaint depuis un certain nombre de semaines qu'il aimerait faire de la musique, mais on ne sait pas trop quoi lui acheter comme instrument. On sait qu'en Espagne, il y a des belles guitares et qu'elles ne coûtent pas trop cher. » Alors, au hasard, les amis de la famille avaient ramené un instrument et il se trouve que cet instrument a été celui sur lequel j'ai fait mes premiers essais. Et après, à l'âge de 10 ans, ma mère m'a invité à aller suivre des cours dans un local des terreaux chez Mademoiselle Liost de Peuzeux, qui avait fait naître le concept du bébé orchestre. Ça te dit quelque chose ?
Ouais, ça me dit quelque chose.
Ça te dit quelque chose ? Alors voilà, parce que moi, entre l'âge de 10 ans et de 11 ans et demi, j'ai appris la guitare en cercle, à raison d'une quarantaine de jeunes garçons et de jeunes filles qui jouaient de la guitare chacun à notre manière, plus ou moins bien. Et chaque mercredi soir, je crois que c'était mercredi soir, on nous donnait une nouvelle partition et on devait se débrouiller. Et puis j'ai appris mes accords de base comme ça. Et je ne suis pas 100% autodidacte, donc j'ai appris à m'accompagner, à me débrouiller, ce qui nous stimulait pour avoir un bon sens du rythme, je crois, parce qu'on était obligé, en imitant les copains et les copines à droite et à gauche, de savoir quoi faire, alors qu'elle n'avait visiblement pas le temps de nous apprendre toutes les bonnes méthodes d'apprentissage, parce qu'elle en avait 40 à traiter en même temps. Donc on ne rentrait pas dans les détails, mais par contre, ça nous donnait une vision très spontanée de la musique. Après, avec mon enfance qui a vieilli un peu, je me suis retrouvé à ne pas être assez discipliné pour faire mes devoirs de musique. En fait, je pratiquais pas assez. Je me contentais de la vie de ces mercredis soirs. Et puis, mes parents se sont fatigués de me payer des cours. Donc, on a arrêté d'aller à ces cours du mercredi soir chez Mademoiselle Liost. Chose que Mademoiselle Liost a regretté, mes parents aussi. Et puis, après, à 11 ans, j'ai commencé à jouer tout seul. J'ai observé ma guitare dans la chambre, je me suis dit, bon, ce truc-là, c'était quand même assez intéressant. Je vais voir ce que je suis capable d'en tirer tout seul. Et puis là, j'ai commencé à apprendre. Alors là, on était dans les années Beatles, Pink Floyd et tout ça. Puis j'écoutais les disques que je m'achetais et j'essayais d'imiter les grands que j'entendais jouer de l'instrument à ma place.
Une histoire de soleil. Écoute-moi bien. Dans ton sommeil, lumière vient te caresser, te pousser, t'inciter à aimer, à monter. Si tu regardes partout descendre, c'est comme si tout avait brûlé. Alors dans ton pays bleu de fumée, tu continues à marcher. Tu vas trouver soleil.
Il a fallu que j'arrive à l'âge de 25 ans pour que je choisisse dans mon plan de vie de décider de faire de cette connaissance que j'avais acquise quelque chose de professionnel. Donc sur le tard, si tu veux. Parce qu'en fait, j'avais appris beaucoup par moi-même. J'avais quelques mauvaises habitudes dans mes positions de main, main gauche, main droite. À la guitare, ça peut avoir beaucoup d'importance de mal poser ses mains. Parce que si tu poses mal tes mains, tu as moins d'efficacité. Mécaniquement, tu peux plafonner et arriver à ne pas dépasser un certain stade de développement de ton instrument. Et j'ai décidé à 25 ans de devenir professionnel. Donc là, j'ai pris des cours de guitare dans une école qui s'appelait Musicalia, qui existe encore aujourd'hui, qui était à l'époque gérée par Marcel Pierrem, qui est devenu mon prof de guitare pendant 3 ans et qui a eu une immense patience jusqu'à ce que j'ai changé mes habitudes de position de main, qui m'a confronté à la musique classique et que... Si tu veux, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire pendant ces 3 ans-là. Je suis parti avec quelques petits diplômes. Les diplômes en eux-mêmes, ils ne m'ont pas servi à grand-chose, mais j'ai pris confiance en moi au niveau de mes positions. Et puis, mécaniquement, je suis allé beaucoup plus loin sur mon instrument. Et après, là, j'étais parti pour une envolée personnelle. J'ai commencé à faire de la scène. J'ai accompagné des gens. J'ai eu une vie de 7-8 ans d'auteur-compositeur-interprète où la guitare avait toute l'importance.
Si tu regardes partout descendre, c'est comme si tout avait brûlé. Alors dans ton pays bleu de fumée, tu continues à marcher. Tu vas trouver.
Entre-temps, il y a une autre voie qui se dessine, c'est la voie de la biologie. Et avant de commencer l'émission, quand on discutait un petit peu, je me suis demandé si finalement Jean-Michel Borjat avait deux voies parallèles entre la musique et la biologie et s'il y avait quelque chose qui se rejoignait.
C'est une bonne question parce qu'on ne peut pas avoir, comme moi, consacré 4 ans et demi de sa vie à étudier à l'université les sciences naturelles sans être marqué. De toute façon, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la nature. J'ai voulu aussi comprendre comment elle fonctionnait. Donc, ces études seront pour toujours quelque chose pour moi de très, très précieux. Après, dans mon parcours de musicien et d'auteur-compositeur-interprète, toutes les compositions que j'ai faites, elles ont toujours eu une saveur un peu environnementale. Sociologique, mais environnementale. Et je me cacherai pas que s'il y a quelques chansons dont je suis content, c'est souvent celles qui parlent de la nature et des rapports entre l'humanité et la nature.
Délivrance, l'instant d'une présence danse, au fil des nues du temps qui danse, le temps qui danse, le temps qui danse. Le temps, le temps, le temps qui danse.
Par ici la musique.
Jean-Michel Borja, tu parles de plusieurs époques. Alors, je crois qu'il y a un élément qui est important dans ton parcours d'artisan de la chanson. C'est cet album, ce 33 tours qu'on a devant nous, qui date des années 80. Exode et Sans mêler. En plus, le titre n'arrive vraiment pas par hasard. Et aujourd'hui encore, pour toi, c'est un bijou qui marque le temps.
C'est un album pour lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai laissé beaucoup de mes sous aussi. Ceux qui m'ont aidé en ont laissé pas mal aussi. C'est un album dont je suis très content parce que je trouve qu'il représente extrêmement bien ce que j'étais au moment où je l'ai fait. Et c'est ce que je passe mon temps à dire à mes collaborateurs dans mon domaine de musique. Ne pète pas les bretelles, ne te dénigre pas, fais ce que tu es aujourd'hui. Et si tu écoutes ce que tu viens d'enregistrer, ne jette pas ce que tu as fait si c'est très représentatif de ce que tu es aujourd'hui. Ne te projette pas dans l'avenir, regarde ce que tu es aujourd'hui et dis-toi si c'est bien ce que tu viens de faire. Alors cet album pour moi c'est vraiment une carte de visite transparente sur ce que j'étais à l'époque. En fait, quand on l'écoute, on entend des textes qui sont plus soignés que sur mon premier album, dont je suis encore aujourd'hui content, je l'ai réécouté l'autre jour. Je me suis dit mais c'était quand même bien ce que je faisais à l'époque, j'avais des raisons de continuer. Et puis il y a aussi le fait que mon esprit était occupé par mon départ de Suisse romande en fait. J'avais essayé de vivre depuis 5 ans, 6 ans en Suisse romande comme auteur, compositeur, interprète. Et je m'apprêtais à sauter par-dessus l'Atlantique pour m'installer au Canada. Donc en fait, je l'ai appelé Exode et Sans mêler, je l'expliquais tantôt. Parce que l'Exode, c'est le chant que tu fais quand tu pars de quelque part et que tu annonces ton départ. Exode, le chant qui sort. Et puis Sans mêler, pourquoi ? Parce que je savais que j'allais fonder une famille en Amérique, au Canada en fait. Et donc que le terme Sans mêler, si tu veux, venait représenter le fait que je savais de moi que j'allais me prolonger dans autre chose qui appartiendrait un peu à l'Amérique, c'est-à-dire un autre continent que celui dans lequel j'étais né.
D'ailleurs, le disque commence par le printemps indien.
Voilà, alors la première chanson de l'album s'appelle Printemps indien. Ça, c'était, ça a été un peu ma manière de déclarer... De faire une sorte de bilan du rapport entre l'homme blanc et l'amérindien en confrontant les deux images, Jacques Cartier, qui est en fait le symbole de la Nouvelle-France qui commençait au XVIe siècle, et les Amérindiens qui ne s'attendaient pas, peut-être à part par les prophéties, à voir des bateaux arriver et des blancs avec des armes et des objets de guerre et leurs habitudes de blancs européens. Et en fait, j'avais envie d'écrire une chanson qui résume un peu ma pensée là-dessus, où je raconte que tout le monde a été surpris, et les Blancs, et les Amérindiens, et que le bilan de cette rencontre, il aurait pu être bien meilleur si on s'était encore plus intéressés les uns aux autres.
Plusieurs dizaines de milliers d'années, d'un océan à l'autre, de l'automne à l'été, autant de tribus, de lacs, de rivières ont coulé, de montagnes et de sentiers, de chasses et de combats, d'alliances et de traités signés, pieds nus sur la terre sacrée, dans le feu de la danse. Ta peau rouge a saigné. Dans le feu de la danse, ta peau rouge a saigné. Premier américain. Premier américain. Premier américain. Premier américain. au capitaine des vaisseaux blancs. Des bras ouverts ont tendu le présent. Sage, sauvage, civilisé, conquérant, ton corps mutilé est resté sur la plage. Tes fils enlevés ont pleuré ce rivage. Par le feu de la blanche, ta peau rouge a brûlé. Par le feu de la blanche, ta peau rouge a brûlé. Hier, hier américain. Premier américain. Premier américain. Premier américain.
Cet album a encore ceci d'historique, c'est que c'est l'album que tu vas prendre sous le bras par dizaines ou par centaines pour traverser l'Atlantique et tenter d'embrasser une nouvelle carrière d'artisan de la chanson et de musicien donc au Canada ou au Québec. Et puis là, finalement, la vie réserve quand même souvent des surprises.
Oui, c'est bien dit. En fait, tu sais, je suis beaucoup moins structuré que ça ne peut paraître, si ça paraît. C'est que je suis parti là-bas comme un aventurier. Je suis allé faire un bout de vie, ce que je croyais être un petit bout de vie avec une Québécoise que j'avais rencontrée à Neuchâtel, finalement qui est devenue ma femme et la mère de mes enfants. Et quand je me suis adapté à cette vie québécoise, cette nouvelle vie, c'était pas forcément très facile de me placer, de trouver du travail, parce que j'arrivais là sans formation reconnue par le Québec, ni la biologie, ni autre chose. Donc en fait, j'ai dû faire feu de tout bois. Et dans ces premières 4 années d'installation, la musique, j'ai dû la mettre sous le couvert un peu. Par contre, mes albums, eux, ils étaient arrivés par la douane. Il a fallu que je les rachète, que je les dédouane. Ils se sont accumulés dans mes affaires personnelles, dans des boîtes en carton dans lesquelles il y en avait 600 qui étaient arrivés. Et puis, pendant les années qui ont suivi, j'ai reconstruit tranquillement une petite toile d'artiste. Je me suis reconnecté avec des gens qui faisaient de la chanson comme moi. Des Québécois tous, des Québécois et des Québécoises. Et puis petit à petit, j'ai commencé d'écouler mon album et de donner des spectacles sur le contenu de ces chansons-là.
Artistiquement, au niveau de la poésie, au niveau de la chanson, il y avait aussi toute une culture au Québec. Tu te sentais proche des gens là-bas, peut-être plus que les gens, les poètes parisiens par exemple?
Ça c'est une très bonne question. En fait, moi ce que j'aime beaucoup chez les Québécois, c'est le naturel, la spontanéité. À l'époque, il y avait autour de moi beaucoup de gens qui écrivaient des très belles choses et avec lesquels j'ai collaboré volontiers. En fait, on montait très souvent des spectacles collectifs. Mm-hmm. J'ai fait partie d'une association qui s'appelle l'UCICQ à Québec, qui pendant une vingtaine d'années a regroupé des garçons et des filles qui écrivaient des chansons, qui comme moi étaient des semi-professionnels ou professionnels, et qui n'avaient pas beaucoup de possibilités de spectacle. Donc on a pendant des années, on a vécu de contrats qui nous permettaient de faire des spectacles groupés. Mmh. On était 5 ou 6 ensemble et puis on nous distribuait un petit peu partout dans la province. Ça, c'était très intéressant. Maintenant, la qualité de ce qui se faisait, c'était tout à fait l'équivalent de ce que moi j'amenais. C'était la même spontanéité, le même enthousiasme. C'était les mêmes prises de conscience contemporaines de la société du Québec.
Le même regard sur la société.
Voilà, ouais. Voilà. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de nationalisme québécois, de tendance à l'autonomie et tout ça. Bon, moi, j'étais un peu étranger à ça, mais je soutenais, j'ai toujours soutenu les idées vers l'autonomie parce que je pense que quand on est mature, quand on est adulte, il ne faut pas avoir peur de se séparer d'un lien qu'on nous a imposé dans le temps passé, tu vois. Puis moi aussi, en tant qu'Européen, je me donnais aussi comme but de défendre la langue française face à l'anglais, omniprésent. Mm-hmm. Donc, j'ai fait partie de ces gens qui luttaient pour que la culture francophone au Québec soit bien installée chez tout le monde, puis que nos disques francophones passent souvent à la radio. Dans ce sens-là, je les ai beaucoup rencontrés.
Est-ce que les radios sont très réceptives aux artisans de la chanson au Québec?
Réceptives, oui. On ne peut pas les trouver en faute du tout par rapport à ça. Et d'autant plus qu'il y a des... Ça peut paraître bizarre en Suisse romande, ça, mais il y a des lois qui protègent le français. On ne peut pas passer plus que tant de pourcentage de minutes d'anglais dans une radio au Québec. C'est protégé par une loi qui s'appelle la loi 101. Par contre, j'ai élevé 2 jeunes femmes, qui sont mes enfants au Québec, Et je peux dire que sur le nombre d'heures qu'elles ont écouté de la musique dans leur iPod ou leur système de son dans leur salon ou dans les parties qu'elles ont vécues avec leurs copains et leurs copines, il y avait au moins autant d'anglophones que de francophones. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'elles n'ont pas été sensibles aux francophones. Mais la production francophone au Québec, elle est quand même toujours menacée et puis c'est quand même toujours une lutte de tous les instants pour rester présent sur les antennes.
Jean-Michel Borjat, aujourd'hui, il est plus compositeur, plus proche de la musique que du texte.
Alors, je peux dire que oui. Dans mon parcours personnel, j'ai donné pendant longtemps beaucoup d'importance à écrire des chansons. J'avais des choses importantes à dire, mais j'ai eu 60 ans cette année 2014, en juillet. Je pense que depuis une quinzaine d'années, je sens en moi que le musicien a aussi, lui, beaucoup de choses à dire. Je pense avoir une facilité à créer des mélodies. Après, j'ai appris le travail d'arrangeur, à mettre des sons ensemble, à aller chercher un chatoiement en rajoutant un son de flûte, de clarinette ou un beau son de synthétiseur à mes guitares. Je ne me contente plus du tout de la guitare, je joue du piano aussi. J'essaie de créer des couleurs qui sont selon le produit qu'on me demande de réaliser. Ou alors, si je fais une musique de film ou que je crée une musique originale pour quelqu'un, ben là, je vais chercher toujours un rapport avec la personne qui me le demande, puis je crée en fonction de ce rapport-là.
J'imagine que l'univers, le travail n'est pas du tout le même que l'on travaille pour un film, que l'on travaille pour Gervais qui était notre invité il y a peu de temps, ou pour de la danse puisque tu as aussi créé de la musique pour de la danse.
Mais tu as tout à fait raison, c'est un peu le travail d'un caméléon créatif. Ce printemps, j'ai une jeune danseuse qui m'a dit « Jean-Michel, je vais monter une pièce de danse avec de jeunes élèves, on va utiliser des costumes coréens ». Puis on va dégager une atmosphère visuelle asiatique. Alors, ma réaction, ça a été de dire, bon, eh ben, cette fois, pour elle, je vais faire quelque chose d'extrêmement asiatique. Mais je n'ai pas beaucoup de connaissances, je n'ai pas de formation académique de musicologie pour savoir quelles sont les caractéristiques de la musique asiatique. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une semaine à écouter de la musique coréenne, chinoise, japonaise. Je suis allé regarder des vidéos sur YouTube de groupes qui interprétaient de la danse coréenne et je me suis imprégné de ces choses-là. J'ai laissé décanter pendant 2 semaines pour plus me souvenir de rien de précis. Puis après, j'ai commencé à créer avec le souvenir, la mémoire et ce que ça avait généré en moi comme souvenir musical.
Depuis 50 ans que tu fais de la musique a énormément évolué et ta manière d'approcher la musique a changé également. Mais est-ce qu'il y a une ligne, est-ce qu'il y a une chose qui fait que pour toi la musique a la même saveur aujourd'hui que lorsque tu avais 10 ans ?
Absolument. La musique a la même saveur. Tout ce qui a changé, c'est mes aptitudes sur mon instrument. Je pense qu'aujourd'hui, ma guitare, elle est plus fidèle à mes émotions qu'elle ne l'était à l'âge de 9 ans, ou 15 ans, ou 25 ans. Mais j'ai compris la ligne de tout ce que je fais aujourd'hui, c'est la simplicité. C'est-à-dire, si j'ai une bonne idée mélodique, si je sens que j'ai touché à quelque chose que les gens auront du plaisir à écouter, je vais toujours essayer d'enlever, C'est-à-dire, je vais essayer de garder le principe fonctionnel de base de ma mélodie. Par exemple, pour une chanson, j'ai arrangé beaucoup de chansons de moi et d'autres personnes. J'ai réalisé que quand il y avait trop d'instruments, quand on faisait intervenir dans les sons un instrument qui prenait trop de place au niveau des fréquences ou au niveau des pulsions, on enlevait de l'importance au texte et vice-versa.
Tu reviens régulièrement au pays neuchâtelois. Qu'est-ce que tu as comme sentiment lorsque tu es ici ?
Ah ben c'est chaleureux, moi j'apprécie beaucoup le contact que je retrouve avec la Suisse romande. J'ai vécu 27 ans au Québec, je me suis jamais tout à fait senti parfaitement intégré. J'ai beaucoup travaillé de ma personne pour m'intégrer, mais je dois admettre que presque 30 ans plus tard, il y a un petit aveu d'échec, pas complet mais partiel quand même. J'ai de la difficulté à épouser corps et âme cette culture, sans du tout vouloir la critiquer. Mais parce que c'est à moi de m'adapter. Mais je peux dire qu'il y a des aspects de cette culture que je n'ai jamais réussi à comprendre ou assimiler complètement. Donc pour moi, revenir en Suisse romande, même si je sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière et que je ne me réinstallerai pas ici, il y a quand même un chatoiement qui est très intéressant, où je sens que j'ai quand même mes racines de jeune homme qui sont implantées ici. Quand je vois l'architecture, quand je parle avec des gens, il y a une forme d'ouverture d'esprit, de gentillesse que j'apprécie beaucoup. Beaucoup.
Pour terminer l'émission, on a demandé à Jean-Michel Bourgeat de prendre une de ses guitares et de nous interpréter une chanson. Cette chanson, elle n'est pas née tout à fait par hasard. Elle est un hommage à un homme que Jean-Michel Bourgeat découvre en 1985 en Italie.
J'ai vu un artiste italien qui s'appelait Pierangelo Bertoli. Et ce type-là, il a été amené au début du concert par un athlète qui travaillait avec lui sur ses tournées, qui l'a déposé sur un tabouret et qui lui a permis de commencer son concert. Et j'avais trouvé ça super de montrer qu'un gars qui faisait de la scène en était arrivé à se détacher complètement de l'apparence physique qu'il avait et à porter ses textes qui était visiblement très motivant pour toutes les milliers de personnes qui étaient là dans le stade de football dans lequel il chantait, en se disant, moi je suis paralytique, mais ça ne m'empêchera pas d'aller chanter mes idées et de les partager malgré mon handicap physique. Puis j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Pierangelo, en revenant de ses vacances.
Par ici, la musique.
Pierangelo, tu le portes dans ton cœur. Ce complice qui te hisse sur son dos. Tu parles plus avec les mains que n'importe quel Italien. Et lorsque les feux de la Seine jettent la lumière sur ta peine, ton visage rayonne, ton visage m'étonne. Tous les chants que tu nous donnes et tous les chants que l'on entonne te porteront bien plus loin que là où tes jambes jamais ne voudront te mener. On n'est plus rien sans les autres. On n'est rien sans les autres. On n'est plus rien sans les autres. Sans les autres, on n'est rien. Pierangelo, peu à peu tu l'as compris. On peut vivre sans pieds, mais pas longtemps sans amis. Et ta faiblesse est ta force, et ma force est ma faiblesse. Et lorsque les feux de la Seine jettent la lumière sur ta peine, ton visage rayonne, ton visage m'étonne. maintenant, c'est la nuit qui danse. Tu nous vois maintenant, et tu penses, et tu penses. On n'est rien sans les autres, on n'est plus rien sans les autres. On n'est rien sans les autres, on n'est plus rien sans les autres. Sans les autres, on n'est rien.
Merci Jean-Michel. Il y a un visage qui rayonnait pendant la chanson.
Ah oui.
C'est celui de ta maman,
ah
qui
bon
est à quelques mètres de nous et qui t'a écouté avec beaucoup de...
Ça lui rappelle des petits souvenirs, ça. Ouais, hein, parce qu'elle m'a entendu la chanter en Suisse romande quelques années, cette chanson-là. Hein. C'est bien. Merci pour l'opportunité.